en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, André Roussin aurait eu 100 ans en 2011, l'auteur de La Petite Hutte, des œufs de l'autruche, de Nina, de Bobos, de Lorsque l'enfant paraît, de La Mama, de La Voyante et de plus de 20 autres pièces, avait été reçu à l'Académie française le 2 mai 1974. Avec nous pour évoquer l'homme, sa carrière, son œuvre et sa pérennité, une figure du monde théâtral d'aujourd'hui qu'il a rencontré pour la première fois, je crois, à 19 ans. Il s'agit de Daniel Mathieu Bouillon, qui a exercé tous les métiers du théâtre, ou presque, d'assistant de metteur en scène à directrice de grande salle, en passant par des activités de formation qu'elle exerce toujours. Daniel Mathieu Bouillon, qui préside depuis 1982 l'association de la régie théâtrale, ce qu'on appelle dans le métier l'ART, née cette association en 1951, tiens, c'est la même année qu'André Roussin, qui en était membre d'honneur. Une association installée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui constitue avec la Bibliothèque nationale de France l'un des deux grands lieux de la mémoire du théâtre à Paris. Daniel Mathieu Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de me recevoir si gentiment.
Alors, André Roussin est né à Marseille, donc en 1911. Il est né un dimanche, il est rue Paradis, il faut quand même le faire. C'était une famille, une belle famille bourgeoise. Mais quand on regarde un peu son enfance, ce qui semble frapper le plus, c'est la qualité de ses rapports avec son père. Exceptionnel, non ?
Effectivement, son père était une image qui comptait beaucoup pour lui parce que peut-être, dans la mesure où il savait que son père s'était fait tout seul, qu'il avait réussi tout seul une très belle carrière dans les assurances et que son père avait épousé l'une des six filles d'un très très gros industriel de la région marseillaise, une espèce de personnage à la Hindenburg qu'il évoquait souvent sous le nom de Louis XIV ou de Jupiter et qui était le monsieur qui vivait encore sous Napoléon III. Et donc, son père avait une espèce de recul que je qualifierais un petit peu humoristique vis-à-vis de cette autorité patriarcale, parce que les filles, toutes les filles filaient droit, c'était la grande famille, tout le monde avait des diminutifs, donc c'était vraiment une grande famille marseillaise. Et son père, qui n'était pas dupe de la dualité, si je puis dire, d'André, sur laquelle on aura l'occasion de revenir, disait finalement « mon fils a une double ambition ». Être le dernier de la classe et devenir Napoléon. Alors, pour la première ambition, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Pour la deuxième, je ne suis pas sûr de vivre jusqu'au sacre.
Mais il n'empêche quand même qu'il avait suffisamment compris son fils pour lui dire « fais ce que tu as envie de faire, mais prends tes précautions, quoi. On va y revenir. Hein. » Vous parliez du grand-père maternel. Oui, il a d'ailleurs fait une pièce sur son grand-père.
Plusieurs pièces.
Mais sur son grand-père.
Que ce soit le tombeau d'Achille,
oui, le tombeau d'Achille,
dans les
oui.
familles. Le oui. grand-père
C'était plutôt
revient.
Une grande gueule, en fait, le grand-père.
C'était une grande gueule.
Ça, hein.
Mais en même temps, avec des histoires inénarrables du grand-père qui décide tout d'un coup d'emmener tous les petits-enfants à la foire coloniale de 1922, grand-père d'eux dans des cases indigènes. Enfin, vous imaginez le folklore que ça avait dû être à l'époque.
Donc, c'est une famille d'enthousiasme, quoi.
D'enthousiasme, mais en même temps, de convention. Et dans une certaine mesure, très tôt, André se sent le petit canard noir ouais. de
Alors,
cette famille.
D'autant que, en préparant cette émission, vous insistiez là-dessus, d'autant que c'est un garçon qui avait plein de passions, mais qui avait du mal à choisir.
Il hein? avait, je pense, une sensibilité hallucinante,
oui, oui.
une inventivité, une imagination débordante. Tout le passionnait, il s'est même à un moment passionné pour le violon.
Et puis, il pensait... a quand même fait 6 ans de violon.
Oui, oui, mais alors mal. Alors donc, il a compris à un moment qu'il valait mieux s'arrêter. Et je crois que tout le monde était content qu'il se fût arrêté. Et très vite, il a écrit sa première pièce. Et ouais. tout d'un coup, très vite, il écrit sa première pièce. Alors dans le style Rostand,
oui,
dans
ça,
le côté
Cyrano,
héroïque,
quoi.
Cyrano. Quoi. Et tout d'un coup, il dit, mais je fais du théâtre, je suis comme Molière.
Et il a écrit des centaines de vers
ah
dans,
oui,
dans une famille qui n'avait pas l'habitude de ça.
Qui n'avait pas du tout l'habitude de ça. Et la famille, d'ailleurs, à l'époque, comme il avait en même temps loupé son bac, il repassait, à l'époque, on repassait en octobre, on l'avait appelé Pagnolet. Parce
ça,
que c'était, la,
gentil,
c'était la sortie de Topa, ça ne faisait rire que.
Ouais,
et
oui.
je pense que lui, ça ne le faisait rire qu'à moitié.
Ouais. Ceci étant, il lisait énormément, enfin, il avait déjà une culture faramineuse.
Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a commencé par le droit, parce que son père lui a dit « écoute, tu feras ce que tu voudras, mais il faut quand même que tu gagnes ta vie, que tu aies quelque chose qui te tienne ». Donc il l'avait lancé vers le droit pensant aux assurances pour sa succession. Donc, il commence une année de droit, il a l'air sage comme une image, il a 2 heures de cours, il s'enferme dans sa chambre. Simplement, ce que la famille ne sait pas, c'est qu'il passe devant un bouquiniste, il rachète 4 petites illustrations par jour et il en dévore 4 par jour. Ce qui fait que pendant son année, il ne fait pas de droit, mais il lit tout le théâtre de 1902 à 1928.
Et ce qui va l'amener à faire la parodie de Molière, c'était à ce moment-là
C'est un peu après. Là, il va se lancer dans la comédie pour un truc qui s'appelle La Coqueluche, qui a beaucoup moins de succès vis-à-vis de la famille, mais il se lance dans les Fureurs d'Alceste. Et alors là, la famille commence à le prendre un petit peu au sérieux.
Oui, parce que c'est en vert, en plus.
Tout d'un coup, c'est en alexandrin, donc ça frappe le bourgeois. Et en plus, chacun a son paquet.
Et bien vu, très observateur.
Donc tout d'un coup, la famille, il écrit en alexandrin, il est capable d'avoir la dent dure. Peut-être devrions-nous le mieux considérer.
Oui, alors, on parle de ses passions, mais il ne cessera pas d'avoir des passions dans la vie. Parce que sur le tard, ce que l'on sait peu, c'est que c'était un bon peintre.
C'était un peintre.
Non, pas un bon, non. Non, j'exagère.
Je ne sais pas.
Il a adoré ça.
Je sais qu'il disait lui-même qu'il était un peintre du dimanche qui peignait tous les jours. Je n'ai jamais vu de toile, donc je ne peux pas vous dire...
Où sont-elles, ces toiles? Parce
Non, il n'y en a pas des centaines. Il semblerait... J'ai eu Nicole Desnoyers, qui a été sa fidèle secrétaire pendant des années, qui était d'une famille marseillaise, qu'André avait vu naître, enfin, qui est une fidélité à toute la famille. Et elle m'a parlé justement que les toiles sont dans le Midi et qu'il est question peut-être d'une exposition des toiles d'André dans le Midi.
Alors, en tous les cas, il adorait ça.
Il adorait ça. Il adorait ça. Ça le détendait.
Alors, dans sa jeunesse, donc, il y a son père et puis il y a une autre personne qu'on a peut-être un peu oubliée aujourd'hui et qui, pourtant, dans l'histoire du théâtre, a joué un rôle important. C'est Louis Ducreux et sa compagnie du Rideau Gris. Alors, vous pourriez nous dire ce que ça représentait à Marseille, Ducreux et le Rideau Gris?
D'abord, Ducreux, il faut vous dire que c'était d'une famille très bourgeoise, très cultivée, très portée vers l'opéra.
Comme Roussin, quoi.
Encore plus.
Encore plus.
À mon avis, encore plus, parce que c'était vraiment des gens passionnés d'opéra, de littérature, etc. Et c'était un fils picon, picon comme la mère picon. Alors évidemment, on parle de ça du picon aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été un apéritif célèbre. C'est comme je disais, le fils Ricard. C'était une famille, donc, importante. Et Ducreux, qui était tout jeune, qui était musicien, qui était pianiste. D'ailleurs, André l'a rencontré avant de partir pour Paris, pour faire du théâtre. Mmh. Et il l'a rencontré lors d'un gala de charité parce qu'il faisait des tas de galas, comme ça, il participait à un gala. Bon, et il a vu ce grand jeune homme, fin, charmant, au piano. Il l'a pris pour un pianiste. Il a rencontré Paul Géraldi 2 jours après parce qu'il était à la fois timide et orgueilleux. Vous voyez, il rencontre Paul Géraldi, il va rencontrer après Géraldi à Paris dès qu'il va arriver. Puis il va le conduire Pierre Fresnay, le doux, etc. Et c'est à Paris qu'il va se rendre compte que finalement le Rideau Gris existe. Et ce Rideau Gris,
la troupe
fondée par Ducreux en 1932, donc Roussin rejoindra en 1933, qui est une espèce de vieux colombier de Marseille.
Oui, mais des bourgeois jouant au saltimbanque, mais avec beaucoup d'exigences.
Mais beaucoup d'exigences, c'est-à-dire il y a tout un univers poétique chez Ducreux. Ducreux, c'était à la fois un mélomane.
Il a joué Supermiel, il a joué Cocteau, il a joué...
Voilà des choses. Et il avait un prof d'anglais qu'il adorait, qui était le président du Rideau Gris, et qui lui a fait découvrir... tout l'univers élisabétain, c'est-à-dire non seulement Shakespeare qu'il traduisait, mais également d'autres grands auteurs comme Webster, comme Gay.
Mais vous m'avez dit quelque chose d'extraordinaire à ce sujet-là, d'ailleurs. C'est par Ducreux que Shakespeare a été joué pour la première fois à Marseille.
Oui, ça n'avait jamais, ça n'avait jamais été joué à Marseille. Et ils ont battu une espèce de record un jour, c'était avec l'Opéra des Gueux, de John Gay.
C'est pas ce qui a inspiré l'opéra de Katsu,
c'est ce qui a inspiré l'opéra de Katsu. Donc, avec musique, 9 tableaux, des décors, une grande salle, vous savez, les salles de noces et banquets dans les provinces. Et il y avait une petite scène de 5 mètres d'ouverture. Et il y avait 9 tableaux, donc impossible. Et Ducreux a eu l'idée de faire une deuxième scène de l'autre côté et un petit passage le long du mur. Et il avait donné un code qui a un signal, le public tournait sa chaise de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, on changeait de décor et ils ont présenté l'opéra du Gueux pour la première fois à Marseille.
Alors, pour Roussin, c'est un apprentissage merveilleux. Il apprend tout, là.
il apprend tout. Il apprend à jouer la comédie. Il apprend les difficultés, surtout. Il comprend que c'est difficile.
Y compris les petites tournées dans les petites villes de province.
Les petites tournées, ils vont se balader dans la région. Ils vont même après monter jusqu'à Lyon. Mais ils vont avoir des moments tragiques. En 36, ils ont l'impression que tout va s'arrêter.
Et il est obligé d'ailleurs de travailler. Il va travailler dans l'assurance, il va être journaliste.
Il va vendre des pots de peinture très mal.
Il va le faire. Parce qu'on va lui dire,
mais dis donc toi, le petit Dédé, tu ne fais pas l'artiste, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu nous vends de la peinture?
C'est quand même
la province.
Et Ducreux
vend des bijoux, vend des trucs pour renflouer. Ils sont entrepreneurs, exactement comme l'étaient les gens du cartel, qui étaient l'image.
Rappelez ce qu'était le cartel.
Le cartel à l'image de Jacques Copeau, qui était en même temps un grand littérateur et le fondateur du Vieux Colombier, et ils sont passés par les mains de Jacques Héberto. C'est un groupe de 4 metteurs en scène, Louis Jouvet, Charles Dullin, Georges Pitoëf et Gaston Batty, en 1927 se sont réunis pour essayer de mutualiser certains de leurs efforts, la publicité, etc., pour arriver à présenter des spectacles d'exigence, de création.
Donc, il apprend son métier, y compris en tant qu'auteur, parce que étant acteur comme ça dans les petites salles de province, il faut savoir jouer avec l'espace. Et donc, ça permet après, quand on est auteur, les mots, on sait ce que c'est.
Je pense qu'il va comprendre à l'occasion d'un moment catastrophique qu'il faut assurer un gala de charité. Et finalement, il va se souvenir de ses fureurs d'Alceste qu'il avait fait devant sa famille. Et tout d'un coup, il va faire, alors à la façon d'Aristophane, une espèce de fureur d'Alceste devant le tout Marseille. Et tout le monde va en prendre pour son grade, y compris les édiles.
Du coup, la ville. Du coup, il est respecté, quoi.
Les gens commencent à prendre conscience de ce qu'il est.
Alors, en 41, donc il a 30 ans, là, il connaît son premier succès à Marseille et qui va rebondir à Paris en 43. C'est une pièce sur le théâtre, très ambitieuse, en fait. Et il va y mettre une partie de son héritage chez Amstram Graham.
Il a un petit héritage, il décide de produire lui-même. Et c'est là qu'il y a l'exquise Micheline Prelle, mais vraiment l'exquise Micheline Prelle, qui est une jeune starlette qui est montante à l'époque. Ils sont conscients qu'il faut quand même un petit nom pour faire et ils vont monter 7 représentations. Et il a calculé qu'en jouant 3 fois à Nice, 3 fois à Marseille, une fois à Aix, il pouvait arriver à récupérer sa mise.
Et c'est un succès prodigieux.
C'est un succès, mais qui a failli être une catastrophe, parce que la pauvre Micheline Prelle s'est tordue le genou, ne pouvait plus marcher, elle répétait en pleurant. Une journée avant la première, Ducreux ne savait plus son texte, mais tout s'est passé. Comme toujours au théâtre, le miracle opère, ça a fonctionné, et ça a été un grand succès.
Et c'est repris à Paris en 1943, c'était à l'Athénée, je crois.
Ça a été repris, c'est ça.
Et ça a été un succès formidable. Mais entre-temps, il aimait bien les jolies femmes, quand même. Il faut le dire. Micheline Prelle, il ne s'est rien passé entre eux.
Enfin,
il aimait bien la regarder.
Mais en revanche, quand il était revenu à Marseille, Ducreux avait écrit une pièce dans laquelle il l'a intégrée tout de suite, qui s'appelait Musique légère, et dont la vedette était Madeleine Robinson.
Voilà. Et pour laquelle il a écrit Une grande fille toute
là,
simple.
Là, il est tombé amoureux. Il y a une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui a duré peu de temps.
Il en a fait une pièce.
Est allé le cœur en dentelle, comme il dit lui-même. Il a fait la pièce, La grande fille toute simple, qui n'était pas sa pièce préférée.
Oui, mais c'est vrai qu'à cette occasion-là, il s'est rendu compte que les personnages lui échappaient, au fond.
C'est quelqu'un...
La Madeleine, elle a pris son essor toute seule là, dans la
mais
pièce.
Mais elle n'était pas arrivée tout de suite. Au début, il l'avait appelée Madeleine.
Oui.
Et puis tout d'un coup, il ne faut pas oublier qu'il y a une chose très importante, c'est que c'était quelqu'un qui s'ennuyait souvent en classe et qui se racontait sans arrêt des histoires qui se faisait rire tout seul.
Son monde
imaginaire, et ce qui le faisait rire, c'était toujours des catastrophes qui en deviennent comiques. Et vous avez souvent dans son théâtre des gens qui veulent se tuer ou qui veulent tuer l'autre. Et tout ça, tout un comique de situation.
C'est pas si gai que ça, en fait.
C'est pas si gai. On y reviendra.
Alors, 43, c'est donc le premier grand succès. Mais il va apprendre quand même à se méfier un peu des succès dans la vie. Parce que 44, il écrit quelque chose en quoi il tient énormément. Je crois qu'il vous l'a suffisamment dit. Et paf, là, il prend une gifle quand même.
Il a lu le Molière de Brisson. Il est malade aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi des soucis de santé sérieux.
Il a des rhumatismes épouvantables,
mais vraiment épouvantables. C'est-à-dire où il est forcé d'être avec des cannes, il souffre abominablement. C'est au moment de la Libération. Il a lu le bouquin de Brisson. Il est évidemment passionné par Molière. Et il écrit Jean-Baptiste le Mal-Aimé. Ce qui est encore révélateur, le Mal-Aimé, pour moi, Roussin est quelqu'un qui ne s'est jamais senti autant aimé qu'il eût souhaité l'être.
Oui, oui. C'est un être d'une sensibilité étonnante. Quoi.
Énorme.
Mais donc, il attrape une claque, en particulier de la part de la critique.
La critique n'est pas tendre. La critique n'est pas tendre avec lui. Ça va se jouer, c'était très courageux de la part d'Annette Badel à l'époque, au Vieux Colombier, qui était un théâtre privé,
prestigieux,
de monter cette pièce. Ça n'est pas très bien accueilli par la critique. Le public, bon, gentillet, mais enfin bref.
Demi-échec. Mais là, il montre déjà qu'il est capable d'assumer un échec.
Il rebondit, c'est-à-dire qu'il est toujours sur l'avenir. Il ne pense pas le passé, il pense la pièce qu'il va écrire. Il a écrit Jean-Baptiste le Mal-aimé, mais en même temps, il a déjà eu l'idée de Bobos, il a commencé Bobos.
Ouais. Cette façon d'être toujours projeté dans l'avenir fera qu'il sera un grand défenseur, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, de l'avant-garde. Enfin,
énormément. Hein. Avec une estime, une sensibilité,
un flair. Il se trompe pas.
Un flair extraordinaire.
Pas, hein. C'est ça.
Mais pour lui, l'avant-garde, c'est l'avant-garde.
Obadia, c'est-à-dire tout d'un coup.
Même quand il dit Ionesco, ceux qui inventent un nouveau langage. Quand Dubillard va sortir une de ses premières pièces, il va écrire, j'ai retrouvé dans la presse, « Au secours, Achard, Anouilh, Audiberti, aidez-moi, il faut qu'on aide, c'est la naissance d'un nouvel auteur, il faut qu'on l'aide. »
Ça, c'est formidable.
C'est formidable.
Son amour des autres, il avait un amour viscéral des autres. Alors, arrive à ce moment-là ce qu'on peut appeler les cinq glorieuses, parce que ça, il faut quand même le faire. Hein. 5 triomphes en 5 ans, 47, La Petite Hutte avec Suzanne Flon, 48, il y a donc Les œufs de l'autruche avec Pierre Freinet, 49, Nina, c'est Elvire Popesco, 50, Bobos, c'est François Perrier, 51, Lorsque l'enfant paraît, Gaby Morlaix, André Luguet, 5 triomphes formidables. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, il y a un style Roussin, il y a une identité Roussin qui se met en place, à la fois dans la forme et dans le fond? Parce que qu'est-ce qui explique qu'il y ait ces 5 triomphes-là? Qu'à un moment, il aura 4 pièces à l'affiche en même temps.
4 pièces qui sont jouées l'une pour la 1500e fois, l'autre qui atteindra les 1650.
Lorsqu'on en paraît, on a fait 1650. Alors, comment vous définissez l'univers Roussin, simplement, en 2 ou 3 phrases? Qu'est-ce qui fait cette originalité de Roussin qui explique ce triomphe?
Moi, je dirais qu'on est dans le début des années 50. On commence ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. On est vraiment ces années 50 qui sont véritablement les années Roussin. N'oublions pas d'où on sort. On sort d'occupation, de restriction, de tout ça. Là, c'est la joie de vivre. C'est l'envie d'être heureux.
C'est la bourgeoisie qui s'assume.
C'est l'envie. C'est pas la bourgeoisie. Parce que finalement, il parle d'un milieu bourgeois. Comme il dit, je vais pas vous parler d'ouvrier. Je connais pas.
Il le dit, moi, je suis né dans la
bourgeoisie. Mais quand vous voyez la façon dont il les traite, on peut pas dire.
Le père des œufs de,
voilà,
des œufs de l'autruche, c'est pas.
On peut pas dire qu'il les soigne vraiment.
Non.
Mais je pense qu'il y a des époques. Et
d'accord,
je crois que le temps, à ce moment-là, est venu pour ce type de théâtre, parce qu'il renouvelle ce genre de théâtre, tout en étant en osmose complète avec son époque, avec des personnages pleins de fantaisie et toujours pleins de surprises.
Oui, il y a des situations cocasses, parce que dans Nina, par exemple, on peut le dire à ceux qui ne l'ont pas vu, le mari et l'amant se trouvent dans le même lit, quand même. Ça n'arrive pas tous les jours.
Et puis quand
le mari, l'amant et la femme sont condamnés à être ensemble sur une île. Enfin,
voilà.
Ce sont des situations étonnantes.
Mais en même temps, il inverse les situations. C'est-à-dire que le mari qui vient pour tuer l'amant, il tombe sur un amant désabusé.
Et on a marre de tout.
Et finalement,
il
va le consoler, il va le soigner. Et c'est ça. C'est tout d'un coup, ces espèces de petites nuances-là qui sont étonnantes.
Et en même temps, l'amour des autres, quand même. Il a une intuition de la psychologie des gens.
Oui. Et puis, il a cet amour d'une scène de théâtre où vous avez 5 ou 6 comédiens et qui reçoivent les vagues de rire déferlantes de 800 personnes. Il compare ça à la houle de la mer. Et ce bonheur-là, c'est magique.
C'est là où sa formation de rideau gris est essentielle.
Ah oui,
parce qu'il a
véritablement appris par la difficulté son métier.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, il a l'aboutissement du bonheur. C'est pour ça qu'il écrit son livre « Patience et impatience ». Les gens ont cru que c'était facile. Il a bouffé de la vache enragée. Ça a été très difficile.
Puisque vous dites, vous, toujours, quand on parle de lui, il n'hésite pas à traiter les sujets les plus délicats pour l'époque. Parce que parler dans les années 50 de l'homosexualité, comme il a fait dans Les œufs de l'autruche, ou de l'avortement lorsque l'enfant paraît, il faut être culotté. Quoi.
Vous savez, lorsque l'enfant paraît, il était avec sa femme, Lucienne, Lulu, bien sûr. Et tout d'un coup, il se met à éclater de rire. Elle lui dit « Mais pourquoi tu ris ?» Oh, il dit « Je viens d'avoir l'image d'un mariage très chic à Saint-Honoré des Lots. Et derrière la mariée, il y a la belle-mère qui est enceinte jusqu'aux yeux. »
Et voilà le point de départ.
Le point de départ est là.
Alors, donc, 5 triomphes. Et puis, ça ne fait que commencer parce que toutes ces pièces vont être jouées à l'étranger avec succès. Et puis, il y a le cinéma. Donc, du jour au lendemain, c'est une grande vedette, quoi.
C'est une vedette internationale. Est-ce que vous êtes conscient que La Petite Hutte, qui a subi la censure américaine, s'était quand même jouée par Ava Gardner? Alors bon, j'ose pas dire qui est Ava Gardner, parce que maintenant, Liz Taylor vient de mourir, les gens savent même plus qui était Liz Taylor, mais Ava Gardner, ça a été une vedette hallucinante.
Énorme, oui. La princesse au pied nu.
Voilà, Stewart Granger et David Niven. Oui. En 57.
Et Nina, c'était Gloria Swanson, non?
Et Nina, c'était Gloria Swanson qui le joue à Broadway.
C'est pas n'importe qui.
C'est pas
d'ailleurs, en France
qui.
Non plus. Pierre Freinet, François Perrier.
Moi, j'ai découvert dans le film Bobos, j'avais 11 ans, j'ai découvert Roussin comme ça.
Alors, il fait ça, mais il est insatiable, hein, parce qu'il est acteur, il est metteur en scène depuis le début. Et puis, il va devenir aussi adaptateur et avec un flair étonnant parce que cette pièce merveilleuse des pieds nus dans le parc de Naïs Simone, c'est lui qui est allé la chercher. Et alors, ce qui m'étonne le plus, expliquez-nous pourquoi il a fait ça, comme s'il n'avait pas déjà cette chose à faire. Il achète un théâtre, le théâtre de la Madeleine, pas n'importe lequel. Pourquoi achète-t-il un théâtre? C'est en 55, non?
En 55, avec son vieux copain Benoît Léon Deutsch, qui était un très grand directeur de théâtre, avec lequel il avait fait aux nouveautés La Petite Hutte. Il avait donc confiance en lui. C'était un homme de talent, de qualité. Et ce n'est pas par hasard qu'il prend le théâtre de Sacha Guitry.
Oui, c'est pour ça.
Je ne suis pas sûre, mais je me le demande.
Oui, mais pourquoi prendre un théâtre quand on fait déjà tellement de
choses?
Parce
que pour lui, quelque part, l'homme de théâtre complet, c'est l'homme qui est à la fois acteur, auteur, metteur en scène, directeur de théâtre.
Parce que moi, j'avais une idée un peu incongrue. Hein. C'était, au fond, la filiation, quoi. Fils d'homme d'affaires.
Oui, mais si on veut faire des affaires, aussi. Mon ange, on ne prend pas un théâtre.
Ça, c'est Freinet l'aurait dit comme ça. Jouvet l'aurait dit comme ça.
Voilà, où on fait un théâtre, surtout les théâtres privés. Je pourrais dire que les derniers grands aventuriers du métier dans le sens le plus noble du terme, ce sont les directeurs des théâtres privés responsables de leur entreprise.
Pour connaître leur vie, je vous comprends parfaitement. Mais une chose quand même qu'on est obligé de constater, parce qu'on a l'impression que la vie de Roussin, c'est lisse, bon, que c'est facile. Là, en réalité, en permanence, il surprend son public.
Il cherche justement à le surprendre.
Dans C'est-à-dire la forme, que, dans le fond.
Voilà. Et il ne va pas cesser. Il va avoir un revers après les succès que vous venez d'évoquer.
Tout d'un coup,
il veut écrire une pièce et que c'est un bide noir. Là, je pense que c'est une forme d'électrochoc.
Parce que ce qu'il faut constater, c'est que le public a marché, enfin, presque tout le temps, peut-être un peu moins sur la fin. Mais la critique, même quand ça marchait très bien en termes de public, la critique est devenue très très vite acerbe pour une bonne partie d'entre elles. Parce qu'on prend une pièce de 1951-52, La main de César, là, il s'est fait injurier.
Massacre.
Injurier. La Mama, 1957, qui est un succès énorme, il se fait insulter.
Oui, insulter.
Et puis le pire, c'est en 1972, La Claque. C'est Pierre Freinet qui jouait.
C'est Pierre Freinet, oui.
Bon, gros succès, énorme succès. Et là, il se fait rouler dans la farine, vraiment.
Il en a beaucoup souffert.
Oui. Comment expliquez-vous ce divorce violent entre lui et une partie de la critique? Pas tout le monde, évidemment. Et très tôt, quoi. 1952, il est quand même...
Oui, mais ça, c'est un échec.
La main de César...
C'est une erreur.
Il faut dire ce que c'est, hein, parce que la main de César, c'est le monde de Pagnol,
voilà, c'est tout
traduit avec la culture latine.
Il veut faire une espèce de fou, maire d'un village, qui veut tout romaniser et qui veut se séparer de sa femme pour faire
Titus. Donc, mauvaise pièce.
C'est une mauvaise pièce.
Bon, mais La Mama, on ne peut pas dire
ça. Osons le dire. La Mama, c'est l'adaptation d'un roman. Au départ, le rôle était prévu pour un homme. Et ça touche à un thème, là encore, délicat. Mettons-nous à l'époque,
drôle,
qui est le thème de l'impuissance masculine.
Oui, mais chez un séducteur.
Chez un séducteur, c'est-à-dire le coq du village est impuissant.
C'est impuissant, ça, c'est drôle.
C'est drôle, mais pas pour le coq du village, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a eu une époque où, bon, Ménée Grégoire n'était pas encore passé, ça posait des problèmes.
Ça a marché.
Le public a suivi, la critique n'a pas aimé du tout, et là, on a commencé à voir tout d'un coup dans les critiques, et c'est un petit peu ce qu'il disait, c'est-à-dire que comme il a des magnifiques interprètes, ça avait commencé avec Bobos. Avec Bobos, l'énormité du phare du succès était sur la performance de François.
Il faut dire que...
Il était magnifique.
Oui, puis il jouait plusieurs personnages.
Plusieurs personnages.
Un monologue de 20 minutes, hein,
voilà,
c'est ça
voilà,
un bon
voilà,
truc.
Okay. Et il disait finalement, c'est normal, on applaudit l'acteur, mais l'acteur dit les mots de l'auteur. Et ça rejoint toujours le complexe Cyrano. Très souvent, quand vous êtes auteur, on applaudit les acteurs et souvent, les gens ne savent même pas qui est l'auteur de la pièce. Ne savent même pas qui a mis ces mots dans leur bouche.
Mais alors, en l'occurrence, là, il faut quand même dire qu'il y a une concordance des temps assez frappante. Lorsque ces critiques deviennent particulièrement acerbes, on est au moment de la nouvelle politique théâtrale. Malraux est passé par là. Le théâtre français redevient sérieux. Sérieux avec l'esprit de sérieux.
Les temps ont changé. Vous savez, on n'est plus dans la dynamique du bonheur, de la joie après les difficultés atroces de la guerre. Là, tout d'un coup, c'est les glorieuses. On commence la consommation, on commence tout ça. Et puis, il va y avoir les universitaires qui vont prendre le pouvoir.
Les maisons de la culture.
Les intellectuels. Alors, j'ai rien contre la décentralisation. Ducreux avait été le pionnier de la décentralisation sans subvention. Au contraire, j'ai fait moi-même les Tréteaux de France, c'est très important. Mais, ouais,
mais attendez, les Tréteaux de France, c'était quelque chose à vocation de qualité populaire.
Oui, c'est ça, dans l'esprit de Villard.
Oui, dans l'esprit de Villard. Alors que là, dans les années 60,
on va dans le côté intellectuel,
politiquement
j'ai
assez
entendu
marqué,
des gens.
Même si Malraux était à l'origine de ça.
Malraux n'aimait pas tellement le théâtre privé.
Je sens que vous allez médire là.
Non,
vous voulez que je dise ce que vous allez dire? Je parie que c'est ça. Vous allez dire que Malraux n'aimait pas le théâtre privé parce qu'il avait fait un bide.
Il avait fait un bide avec La Condition humaine
à
Héberto.
Hein, c'est ça. Ouais. Et vous croyez que c'est ça qui a...
Je crois.
Bon, allez, paix à son génie.
Non, mais paix à son génie. Vous savez, c'est presque une attitude politique. Parce que tout d'un coup, les théâtres privés sont qualifiés de bourgeois. Les théâtres bourgeois. Et tout d'un coup, c'est tout sauf le bourgeois.
Ouais. Et alors là-dessus, ce qu'il y a de drôle, c'est que le rire, alors qu'on a affaire à des intellectuels qui théoriquement ont un niveau d'intelligence assez poussé, le rire est absolument assimilé aux bourgeois.
Voilà.
Donc, on ne veut plus rire, quoi, c'est ça.
On ne veut plus rire de cette façon-là. Vous savez, c'est quand même... Moi, j'ai vu, je ne me rappelle même plus le metteur en scène, et même si je me le rappelais, je ne le citerai pas, mais j'ai vu quelqu'un rendre ennuyeux le mariage de Figaro.
Vous savez ce que disait Pagnol, hein, méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux. Alors là, on était vraiment dans l'anti-Pagnol. Alors, il y a donc La Claque, c'est 72, grand succès mais critique atroce. Ouais. Et 73, un coup de baume quand même, il est élu à l'Académie française. Qu'est-ce que ça représente pour lui, l'Académie française?
Tout d'un coup, c'est la revanche de Pagnolet.
Ah, par rapport à sa famille?
Ah, moi je pense.
Et son grand-père maternel était encore en vie ou pas?
Non, non. Moi j'ai vraiment l'impression que tout d'un coup, c'est le petit garçon incompris que quelque part, il n'a jamais cessé d'être au fond de son cœur.
Oui.
Je pense qu'à chaque échec, il revenait dans ce que j'appelle le complexe Pagnolet. Je ne suis pas reconnu, on ne m'aime pas comme on devrait m'aimer. Je pense qu'il y avait une sensibilité, mais énorme, beaucoup plus importante qu'on ne pourrait imaginer quand on voit l'aspect un petit peu lisse du personnage. Et là, tout d'un coup, c'est la consécration ultime. Sa maman est toujours de ce monde. Je pense que la personne qui a dû beaucoup compter dans sa mémoire à ce moment-là, c'est le visage de son père.
Ouais.
Parce que autant sa mère avait vu ce qu'il était devenu.
Oui, oui. Ça, c'était le sacre de Napoléon.
Ben voilà, c'était le sacre et le père n'était plus là.
Il était plus là, oui.
Et il avait quand même toujours craint. Il y avait la mentalité, la peur d'être un raté. Dans une famille, la peur d'être un raté, c'était terrible. Tout d'un coup, après tous ses succès, l'aboutissement avec cette épée dessinée par Georges Vakevitch que tu es arrivé avec accent russe en 1936 au rideau gris avec des décors dans la valise.
Oui. Mais alors, vous m'avez dit un jour sur l'Académie par rapport à Roussin que ça l'avait en même temps freiné.
C'est mon impression.
Mais pour quelle raison, alors?
Mettez-vous à sa place.
C'est
quelqu'un qui est complètement iconoclaste parce que regardez le discours qu'a fait Jean-Jacques Gauthier lors de l'intronisation.
Oui, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une phrase que je voudrais garder pour la fin parce que je ne suis pas tout à fait d'accord.
Mais tout d'un coup, il est reçu au milieu de tous ces gens et il demande l'autorisation de pouvoir rester acteur. Et on lui dit, oui, ce sera possible. Ouais. Il y a un précédent d'ailleurs, et ça, on le retrouvera dans le discours de Jacqueline de Romilly.
Il avait beaucoup de tendresse pour lui.
Ah, oui.
Ils ont occupé le même fauteuil, le 7.
Oui, le 7. Elle l'a remplacé au fauteuil numéro 7. Le 7 est un chiffre porte-bonheur. Et cette grande dame le comparait à Ménandre.
Le créateur de la comédie à la française.
Voilà,
bonjour,
un des derniers auteurs grecs connu de comédie.
Mais qui a été le modèle des comédies françaises.
Qui était justement l'homme de la philanthropia, c'est-à-dire qui aimait les gens. Et Roussin aimait les gens, tout en gardant une lucidité.
Mais non, c'était à Athènes la grande figure de la comédie.
Voilà.
Donc, il a peur quand même de ne pas être à la hauteur, donc il écrit moins.
Je ne sais pas s'il a peur de ne pas être à la hauteur ou bien si tout d'un coup, ça ne va pas brider sa fantaisie débridée.
Alors, ce que vous m'avez dit qui m'a le plus frappé dans tout cela, c'est que, en fait, il faisait pratiquement une pièce par an. Hein. Dans ces années-là, il commence à en faire beaucoup moins. Et vous m'avez dit un jour que c'était lié, en réalité, à la critique, qu'il pouvait plus supporter. C'est vrai, ça?
Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je peux vous dire quelque chose que j'ai vécu. Il me l'a dit.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, exactement?
Il faisait partie du jury du prix du brigadier que je préside. Je ne le présidais pas à l'époque, mais donc je faisais partie de ce jury. Et à la fin d'un déjeuner, ça devait être peut-être dans les années 75, 76, je ne peux plus vous dire exactement.
Il est mort en
87, je lui dis, André, mais pourquoi n'écrivez-vous plus pour le théâtre? Et il m'a dit textuellement, je n'ai plus la santé de me voir traité de con le lendemain dans la presse.
Ça veut dire quand même que la plaie était béante. Hein,
quand même.
Alors je voudrais qu'on dise un mot quand même de son dernier texte, sa dernière pièce, parce qu'il est mort alors qu'elle était encore à l'affiche, c'est « La petite chatte est morte ». C'est très symbolique, ça, cette pièce, pour vous, de l'univers de Roussin. C'est pas si simple que ça, quoi.
C'est pas simple du tout. Parce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, l'école des femmes, on l'a dans l'école des dupes, on retrouve ces personnages. Molière, il commence à écrire sa première pièce, il fait « J'écris du théâtre, il est tout petit, je fais comme Molière ». Il avait un tableau de Molière. Molière,
il
c'est quand même,
pour Molière,
c'est quand même le personnage par excellence des gens de théâtre. Et puis Molière, c'est la France.
Mm-hmm.
C'est vrai, Molière, c'est la France. Et il a vu cet échec avec Jean-Baptiste et il écrit « La petite chatte est morte », qui est plus une réflexion quasi philosophique, puisque c'est un procès. Arnolf a assassiné Agnès. Et donc, on se sert de phrases de Molière. C'est mon excellente amie, et que vous connaissez aussi, et que vous appréciez comme moi, j'en suis sûr, Jean-Laurent Cochet, qui avait mis en scène
était le premier invité de cette
ce
série.
Spectacle. Mais on a une analyse très pointue. À mon sens, j'avais un souvenir ému d'avoir vu Jean-Baptiste le mal-aimé grâce au Théâtre ce soir.
Mmh.
Il a eu 21 de ses pièces qui sont passées au Théâtre ce soir, quand même.
Ouais.
Ça a été une diffusion énorme. Je l'ai relu.
Ça tient moins la route.
Ça tient moins la route que je ne le pensais à l'époque. Et je pense que Roussin a du génie quand il fait du Roussin, quand il est dans son imaginaire.
Ouais.
Quand il laisse partir son imaginaire.
Avec cette finesse.
Et pas avec cette finesse. D'accord. Et surtout, ses coups de théâtre, ses imbroglios, toutes ces complexités qu'il est capable d'inventer pour se faire rire lui-même. Mmh. Il a envie de se surprendre lui-même. Et j'ai l'impression que lorsqu'il s'impose un carcan, ça devient plus...
scolaire,
didactique, ouais. Vous voyez ce que je veux dire.
Alors, il y a pas mal de points communs entre Guitry et lui, hein. Bien sûr, l'univers qu'il dépeigne, le style limpide chez les deux, une analyse assez caustique de la bourgeoisie. Mais à votre avis, quelle est la grande différence? En quoi Roussin est vraiment différent de Guitry?
Je dirais
en plus
que...
de l'époque, évidemment, parce que ce n'est pas la même génération.
Ce n'est pas la même époque. Je vais peut-être vous choquer, ça n'engage que moi.
Mm-hmm.
Mais je dirais que chez Guitry, le verbe prédomine.
Le verbe ne se fait pas cher, quoi.
Si, le verbe se fera cher. En revanche, André invente ses personnages et il parle.
Oui, oui.
Alors que tout d'un coup, Guitry, il a la réplique. Plus concis, d'ailleurs. Vous remarquez que le dialogue de Guitry est beaucoup plus concis. Mais il a été à très très bonne école. Jules Renard, oui, Mirbeau, oui. Les Mousquetaires. Alors que chez Roussin, on part d'une situation et tout d'un coup, il fait parler ses personnages, il entend ses voix et tout. C'est un petit peu différent. Mais il y a un thème majeur
l'amour.
Qu'on retrouve, c'est l'amour,
l'amour
et la femme.
Oui, mais il y a quand même une différence. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais chez Roussin, il y a une tendresse qu'il n'y a pas chez Guitry, quoi.
Je crois qu'il y a de la tendresse chez Guitry.
Et elle est assez profondément cachée, non?
Je pense que l'un comme l'autre, ils pensent de la femme ce qu'Arnolf dit quand il parle de ces animaux-là. C'est-à-dire que la femme est mystère.
Oui. Il n'a pas une vision très positive de l'amour, Roussin.
Guitry non plus.
Non, mais chez Roussin, il y a cet exemple quand même, un amour qui ne finit pas, c'est quand même assez terrible comme histoire, parce que pour que ça marche, il faut que ça ne soit pas consommé. C'est ça l'idée.
Attendez, ils ne se rencontrent même pas.
Voilà, c'est ça.
C'est dans l'amour fou, il ne faut surtout pas que ce soit consommé, mais dans l'amour qui ne finit pas.
Mais dans les deux cas.
Il arrive la prouesse d'avoir ces deux protagonistes qui ne se rencontrent jamais.
Oui. Ça veut dire qu'il n'y a d'amour que s'il n'y a pas de réalisation, quoi. C'est très sombre, ça.
On est toujours déçus, quelque part.
Ah, mais c'est
et
très,
regardez,
très
quand dans la vie est trop courte, il y a un moment, le quotidien, revenir sur le quotidien, peut peut-être, quelque part, tuer l'amour. C'est Jean-Pierre Aumont qui disait « L'amour est une plante rare et fragile, et il faut s'en occuper tous les jours. »
Il savait de quoi il parlait, lui.
Oui.
Alors, nous parlions de Jean-Jacques Gauthier. Alors, effectivement, Jean-Jacques Gauthier a dit dans son discours de réception d'André Roussin à l'Académie française, il a cité une phrase de Paul Léoto en l'identifiant au théâtre de Roussin. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Monsieur, donc en s'adressant à Roussin, votre théâtre correspond à la définition que Paul Léoto donnait du théâtre même, c'est le rire, la fantaisie, l'imagination, la répartie vive, le trait prompt et pénétrant, tout à la fois l'irréel et la vérité, l'observation qui se répand en trait comique, le mouvement, la farce, au besoin même la bouffonnerie. Vous ne trouvez pas que ça limite un peu trop le...
Ça limite. Il y a tout ça,
certes. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça, quand même.
Mais il y a l'envie de dépeindre le fond du cœur humain. Roussin, je pense, disait toujours ce qui est important, une pièce touche les gens. Et il faut qu'elle les touche. Et si elle les touche par le rire, c'est bien. Et si elle peut les faire réfléchir après, tant mieux.
Oui, parce que la maman, c'est l'angoisse.
Complètement. Bon, la voyante.
Jamais... Oui, la voyante, c'est encore plus.
Encore plus. Encore plus.
On ne sait jamais, c'est cet homme qui adorait sa mère qui tout à coup s'aperçoit qu'il n'est pas le fils de son père et tout s'écroule.
Tout s'écroule.
Bon, Bobos, il voudrait être un macho et c'est au fond un homme tout faible. Donc ça n'a rien de si simple que ça.
Ça n'est jamais simple. Mais vous savez, Roussin était un auteur célèbre. Il a été côtoyé par les plus grandes artistes. Et bon, ben, on sait les séductions que peuvent jouer certaines artistes. Je pense qu'il avait été échaudé avec Madeleine Robinson, mais je pense que Roussin a toujours dû se demander si on pouvait l'aimer pour lui-même.
Ouais, alors d'ailleurs, il y a une chose que vous m'aviez fait remarquer, personne ne m'avait dit ça sur Roussin. Regardez pour voir à quel point, comme il se méfiait de l'amour, tant qu'il a été jeune, quand il était acteur, il ne s'est donné que le rôle de l'amant.
Oui.
Jamais celui du mari.
Il s'est toujours donné le rôle de l'amant. Il veut jouer le rôle de l'amant. Dans La Petite Hutte, il veut jouer le rôle de l'amant.
Il veut être aimé sans être confiant dans l'amour. L'amour installé, il n'y croit pas.
Et quand il passe des auditions, il passe Fantasio, ouais, passe Octave, enfin, tous les jeunes premiers du répertoire.
C'est drôle,
et ce qui le tue, c'est que Ducrot lui fait faire des rôles de composition, où il excelle extraordinairement.
Ouais, car c'était un excellent acteur, il faut quand même le rappeler. Alors, vous l'avez bien connu, je ne voudrais pas qu'on fasse d'hagiographie, mais qu'est-ce qui vous frappait le plus dans l'homme Roussin? Pour ceux qui ne l'ont pas connu, qu'est-ce que vous voudriez
faire ressentir?
Mais
je dirais, comment dire, en helléniste fidèle, je dirais justement la philanthropia. C'est-à-dire cette espèce d'amour de l'homme.
C'est ça, oui.
L'amour de l'homme, de l'humain en général, et l'amour du théâtre. Et en même temps, je pense qu'il a été heureux d'être directeur de théâtre parce qu'il a pu s'offrir ce privilège, à quel prix Dieu seul le sait, de se retrouver seul dans une salle obscure, vide. Rempli de fantômes, cette espèce de lieu où va se passer la cérémonie secrète qu'est le théâtre. Ouais. Et ça, il en était terriblement conscient.
C'est la définition du théâtre par Hugo dans la préface de Cromwell, c'est la vie transcendée par l'art.
C'est ça. Et on sait que l'œuvre d'art se fait vraiment à mi-chemin entre les acteurs et les spectateurs. Pourquoi au théâtre, c'est toujours nouveau? C'est parce que vous jouez devant des gens qui sont rassemblés là ce soir, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais vus.
Pourtant, il va
et
se créer.
Pourtant, ils sont le dernier personnage, celui avec lequel on n'a pas répété, qui fait que la pièce change tous les soirs.
Ce qui faisait dire à Yvonne Printemps, quand je rentre en scène, je me rends compte des zones de froid qu'il y a dans la salle. C'est ça, c'est une vraie magie.
Absolument.
Alors, c'était un homme charmant, mais il détestait qu'on dise de lui qu'il était gentil. C'est ça.
Oui, mais vous savez, finalement, c'est vrai que le mot « gentil » a pris une espèce de sens un peu péjoratif. Alors que, quand la gentillesse est alliée à l'intelligence, à la subtilité, à la lucidité, c'est une des plus belles qualités humaines.
Oui, ça donne l'honnête homme du 17e.
Pour moi, André avait ce côté honnête homme dans le sens du 17e. C'est-à-dire, il était observateur. Je me souviens d'un jury du prix du Brigadier où on hésitait entre Peter Brook, je vais dévoiler des secrets de délibération, mais il y a prescription là depuis le temps, qui débutait dans son nouveau théâtre au Bouffe du Nord avec Timon d'Athènes. Et il y avait Jean-Jacques Gauthier qui était dans le jury et lui avait voté pour Timon d'Athènes. Et on était avec Achard, André, mon mari et moi. Et nous, on voulait voter pour Monsieur Klebs et Rosalie, qui était une création d'Obaldia magnifique. Et c'est vrai qu'on adore Shakespeare. Comment ne pas adorer Shakespeare? Mais on avait envie. Et Roussin se battait pour ça, se battait
et
pour Obaldia.
Vous avez gagné?
Non, on a perdu.
Vous avez perdu.
Shakespeare a gagné. Je ne regrette rien. Mais ça montre
Obaldia
bien.
Obaldia est rentré à l'Académie française.
Bien sûr. Et c'est un être merveilleux. Mais il avait cette espèce d'ouverture. Il fumait trop. Il fumait. Roussin.
Et comment vous interprétez ça, pour faire de la psychanalyse de quartier?
Les psychanalyses de quartier, je pense qu'il était en même temps anxieux. C'est-à-dire, vous savez, comment peut-on être à la fois avec des formes de certitude de ce qu'on sait? Ce métier, à mon avis, on ne peut le faire que si l'on conjugue à la fois orgueil et humilité. C'est quand même un des rares métiers où on remet tout en jeu.
À chaque fois.
À chaque fois.
Ouais, ça, c'est vrai.
C'est morituriste, t'es saloutante.
Si vous aviez à garder... pour ceux qui nous écoutent, soit une image, soit un mot, qu'est-ce que vous proposeriez?
Moi, il y a une chose qui m'avait frappée, et je crois que je l'ai lu dans le discours de Jean-Jacques Gauthier, c'est qu'il avait dit qu'à la fin de sa vie, quand il mourrait, il aimerait dire qu'il a écrit ce qu'il a voulu écrire, qu'il a fait ce qu'il a voulu faire, et puis quand la mort se présenterait, il aimerait l'embrasser, histoire de la surprendre. parce qu'elle ne doit pas avoir beaucoup d'occasions de l'être.
Ça, c'est génial. Enfin, gageons qu'ils font bon ménage tous les deux.
Je pense, je pense qu'il est là-haut, qu'il est heureux, qu'il a retrouvé les êtres qu'il aime. Mais son esprit est là, son souvenir demeure, et c'est important. Mais maintenant, vous voyez, il écrirait beaucoup plus court. Alors moi, il y a une chose qui m'a fait de la peine. J'ai lu dans un journal cette semaine, le ministre a célébré le centenaire, et il y a un des chroniqueurs que je ne citerai pas qui a dit « Oh, c'est du vieux théâtre ». Roussin, aujourd'hui, n'écrirait pas comme ça. Il écrirait beaucoup plus court.
Oui, oui, oui.
Mais à l'époque, on écrivait long. Mais maintenant, il ferait beaucoup plus court parce qu'il s'adapterait au temps.
Remercions-le pour tout ce qu'il nous a apporté. Et puis,
absolument.
Il y a encore des pièces qui tiennent la route quand
Absolument,
même.
Beaucoup.
Et puis tiens, s'il nous écoute, il y a le mot de Woody Allen. Vous vous citiez donc ce mot-là de Roussin sur la mort, mais je pense qu'il aurait aimé celui de Woody Allen aussi. Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais le jour où elle viendra, je préférerais ne pas être là. Roussin aurait pu dire ça.
Absolument.
Ainsi s'achève donc cette émission consacrée à André Roussin, dont on fête le centenaire de la naissance cette année, et dont l'invité était Daniel Mathieu Bouillon, qui est président, je le rappelle, de l'ART, l'association de la régie théâtrale, une association formée de professionnels du spectacle, qui sont tous, je le signale, hein, parce que ça, c'est quand même important, tous bénévoles. Une association qui est installée dans le dernier hôtel royal construit à Paris dans le Marais, c'est le splendide hôtel d'Angoulême-Lamoignon, qui abrite la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors, pour partager la formidable mémoire du théâtre constitué par l'ART, n'hésitez pas à consulter son site internet, je vous le donne, c'est www.regitheatral.com. Donc www.regitheatral.com. Daniel Mathieu Bouillon, merci.
Merci à vous.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.